Merci.
Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Sally Bonan, Anaël Pigeat et Fabrice Bousteau pour parler ensemble de la collection Alana, chez l'œuvre de la peinture italienne, c'est au musée Jacques Marandré. Degas et l'opéra, c'est au musée d'Orsay. Marche et démarche, une histoire de la chaussure au musée des arts décoratifs. Et puis il y aura un coup de cœur de Sally Bonan pour Par hasard, au centre de la Vieille Charité, à la Friche, la Belle de Mai à Marseille. Et nous ouvrons cette dispute avec la collection Alana. Au musée Jacquemart-André, les commissaires en sont Carlo Falciani et Pierre Curie, dans une scénographie du Berlegal. Cette collection Alana, qui est réputée pour être l'une des plus riches collections privées d'art de la Renaissance italienne, elle est conservée aux États-Unis, elle n'a pas pour habitude de se promener, et elle ne se visite pas. L'occasion offerte aux visiteurs du musée Jacquemart-André est donc assez exceptionnelle. On peut y voir en effet 76 œuvres de grands maîtres italien, on va en parler évidemment, œuvre réunie par ce couple de milliardaires chiliens qui s'intéresse à cette période qui va du gothique international jusqu'au maniérisme. Quand on pense qu'ils ont débuté leurs acquisitions de cette période il y a seulement une vingtaine d'années, ça donne un petit peu le vertige. Un peu de Monteverdi, pour être tout à fait raccord et pour se faire du bien. Pour commencer à parler de cette collection Alana, un premier tour de table rapide pour recueillir votre sentiment sur cette exposition. Anaël Pigeat.
Un regard conceptuel sur 5 siècles de peinture italienne.
Sally Bonan.
Une très belle exposition, très étonnante, qui exalte le regard.
Et Fabrice Bousteau.
Une exposition fabuleusement chaotique et qui fait exploser la couleur.
Anaël, alors il faut qu'on décrive un petit peu plus le parcours, c'est à vous que cette tâche incombe.
Eh bien, le parcours, je crois qu'il faut le faire commencer à l'entrée du musée Jacquemart-André.
C'est pas mal, en même temps c'est une bonne idée.
En tout cas, prendre en compte le chemin qui nous mène à l'espace d'exposition temporaire et qui nous fait passer devant déjà de la peinture italienne, notamment la sublime fresque de Tiepolo qui fait partie de la collection du musée Jacquemart-André, puisqu'il y a un écho qui se dessine dans cette exposition entre la collection de Alana, la collection Alana, et la collection de Jacquemart-André. On commence le parcours par un film d'ailleurs qui nous donne quelques clés à ce sujet et sur le contexte dans lequel cette collection a été réunie. Et puis ensuite on arrive dans une première salle de l'exposition qui fonctionne comme un prologue. Il y a un accrochage qui est très singulier de ces tableaux italiens apparemment, selon des lignes géométriques assez raides, il y a vraiment un alignement qui pourrait faire penser à des salons du 18e ou du 19e siècle, mais qui en fait est plus raide que cela et qui donc prend cette dimension presque conceptuelle. Le premier mur et le deuxième mur sont consacrés au 14e et au 15e siècle, donc aux panneaux à fond d'or, avec des compositions héritées du gothique, une grande attention aux figures et à l'architecture. Il y a par exemple cet ange avec un manteau de plumes de pont de Giovanni Paolo. Le troisième mur, essentiellement, c'est le XVIe siècle. Et puis ensuite, après cette première salle à l'accrochage extrêmement dense, extrêmement serré, on prend un parcours chronologique dans une muséographie beaucoup plus classique, avec des murs, avec des fonds colorés et un accrochage qui ressemble à celui d'un musée d'aujourd'hui. Donc là encore, un parcours chronologique. On commence avec les primitifs, XIIIe et XIVe siècle, l'inspiration byzantine. Ensuite, on attaque la première Renaissance florentine. Alors ça, c'est une salle qui est vraiment très formidable, très surprenante, très éblouissante, avec par exemple une annonciation de Lorenzo Monaco, avec un ange aux ailes arc-en-ciel totalement délirantes, une vierge à l'enfant d'Uccello, un Saint Sixte de Fra Angelico. Ensuite, on passe à la fin du XVe siècle, la spiritualité florentine. Donc là, on redécouvre l'antique, il y a une grande ferveur religieuse qui se dégage de ces tableaux. On peut citer par exemple le maître des bâtiments gothiques avec une crucifixion sur un drap noir qui ressemble à un carré noir qui est très très étonnant aussi. On passe ensuite au début du XVIe, une salle consacrée à la grande peinture vénitienne. Donc là on rentre dans les clairs-obscurs, il faut noter que c'est un axe nouveau, une période très récente pour la collection Alana. On peut donc voilà, on peut parler par exemple de la crucifixion, de plusieurs crucifixions, des effets dramatiques évidemment, des clairs-obscurs de Tintoret, de Véronèse aussi, un Saint-Pierre et un Saint-Paul tout à fait remarquables. Et puis ensuite, le parcours se prolonge avec le début du XVIe siècle, la cour des Médicis, par exemple le Saint-Côme de Bronzino qui est dans un profil de médaille, représenté dans un profil de médaille avec son manteau rose et rouge absolument sublime. Et le parcours se termine avec la fin du XVIe siècle, la révolution picturale du baroque et le début du caravagisme.
Bon, on voit bien que c'est une exposition riche. Alors, effectivement, d'abord numériquement, si je puis dire, numériquement. Oui, ça doit être ça. Mais aussi parce qu'elle joue des correspondances avec, vous l'avez dit, la collection de peinture italienne du musée Jacquemart. André, Sally Bonne, pour entrer plus avant, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous marque? C'est vrai que j'avais pas fait attention, c'est l'affiche qui reprend cette annonciation avec effectivement cet archange avec des ailes en couleur arc-en-ciel. C'est un des trésors, il y en a quand même beaucoup.
Ah, il y en a beaucoup des trésors. Il y a cette première salle très très étonnante, effectivement, Anaëlle l'a signalé, de cet accrochage très dense, qui reprendrait une tradition classique, mais qui est en fait un accrochage à touche à tout, avec une rigueur, et qui mélange effectivement des tableaux du XIIIe siècle et des tableaux du XVIe, et donc on voit là dans un éclatement de couleurs, de dorures, toute la qualité en fait du regard de cette collection, enfin du plaisir du regard, parce que c'était ce que j'avais évoqué en introduction. C'est une collection qui cherche à créer un ensemble très représentatif de l'art italien à la Renaissance et qui préfigure la modernité. Et c'est sans doute cette qualité de cette collection, justement d'un regard ou d'un parcours émancipateur dans l'histoire de l'art italien, notamment de l'homme moderne, avec une importance des conceptions historiques, philosophiques, religieuses, artistiques et éthiques du XIVe au XVIIe siècle. Il y a aussi un ensemble de rapprochements qu'on peut établir entre les œuvres, et notamment la circulation qui s'y fait par l'esprit dans cette première salle, mais qu'on retrouve dans l'ensemble du parcours. Les pièces se côtoient sans hiérarchie, et on aborde quand même cette collection comme une expérience personnelle, un choix pensé et intime. Et sans pour autant chercher une cohérence absolue de la collection, parce que ça la réduirait à une intentionnalité artistique ou esthétique, ce qui n'est pas évident, mais il y a quand même ce rassemblement en fait d'œuvres de grands maîtres hein, qu'on connaît hein, Bellini, Carpaccio, Frangelico, Uccello, Filippo Lippi, Bellini ou Rondino ou Véronèse, mais d'autres maîtres bien moins connus, voire méconnus en tout cas du grand public, mais qui sont très très étonnants. Et en fait, la grande qualité de cette exposition et de cette collection, c'est de faire apparaître en fait des sortes de petits trésors. Alors je pense à certains en particulier, et notamment dans cette première salle, et je commencerai juste par là, un tableau incroyable, presque hallucinant, d'Antonio Vivarini, qui montre un Saint-Pierre martyr exorcisant un démon qui a pris les traits d'une Sainte Vierge à l'enfant. Et là, on a une Sainte Vierge avec des ailes de chauve-souris noires, des griffes crochues, des pieds crochus et des cornes. Et l'enfant Jésus, lui aussi, a des cornes et des ailes noires. Et ce tableau est absolument fascinant, d'étrangeté aussi, et d'une sorte de modernité très particulière.
Alors, on va revenir sur ces étrangetés, mais tout de même, Fabrice Bousteau, je disais, cette collection, cette section de la collection Alana, elle est quand même relativement récente. Et ce qu'on se demande quand même en visitant l'expo, et vous connaissez bien la question des marchés, c'est tout ça a donc été à vendre dans les 20 dernières années, qu'ils aient pu l'acheter. C'est quand même, c'est bête, mais je ne pensais pas que c'était possible qu'on pouvait trouver autant à acheter.
On peut trouver beaucoup de pièces anciennes à acheter, et c'est le cas aussi par exemple pour Rembrandt. Souvenez-vous de cette exposition extraordinaire avec des chefs-d'œuvre de Rembrandt. En moyenne, moi j'étais très étonné parce que, pour donner un exemple aux auditeurs, la Fondation Carmignac a acquis...
Toute récente, elle.
Une collection d'art contemporain, mais avait présenté pour l'exposition inaugurale de la Fondation l'année dernière un extraordinaire Botticelli. Je me suis renseigné sur le coût d'un Botticelli, c'est 500 000 euros.
Ah ouais. Ce qui est très peu au regard
d'une œuvre d'art contemporain, de l'art, où quand on considère que un horrible Jeff Koons peut valoir 50 millions d'euros.
Oui. Donc Et un beau soulage 10 millions.
Donc effectivement, et c'est pour ça aussi sans doute que cette exposition, moi je l'ai vraiment vue comme une sorte d'installation d'art contemporain. je me suis un peu fait un film à la Godard en allant voir cette exposition.
Vous avez couru en traversant les Halles, non? C'est difficile de courir vu le monde qu'il y a en même temps.
C'est très difficile de courir vu le monde qu'il y a, et puis vu qu'il y a beaucoup de personnes âgées. C'est ça qui est le paradoxe, c'est quand on est face à une collection d'art ancien, et je pense que le public de l'art contemporain serait sans doute très adapté à cette exposition. Parce que c'est une succession de flashs de couleurs. Déjà, la couleur, pardon, de la couleur. Ouais. On est étonné, lorsqu'on est visiteur de cette exposition, par la fraîcheur, le côté presque punk de certains roses, de certains bleus qui sont frais et hallucinants. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de cette annonciation avec cet archange qui a quasiment des couleurs LGBT. Je le dis pas par provocation, mais on est vraiment frappé par ces couleurs. On est frappé également aussi par ce kaléidoscope d'image, c'est-à-dire que cet accrochage, cette installation d'art contemporain de la première salle, qu'on retrouve quand même un peu d'une certaine manière un peu partout, parce que même si après on reprend les codes de murs en couleur et d'un côté plus dépouillé, la somme des œuvres, le mobilier, l'architecture, l'ambiance du musée Jacques Marandré fait qu'il y a une sorte de chaos du temps et des époques qui se crée. Et ce qui me frappe aussi, moi, c'est la beauté des portraits, la finesse de certains portraits, notamment un portrait du Pontormo qui s'appelle Portrait d'un joueur de lutte, qui m'a absolument fasciné, parce qu'on voit ce jeune homme avec effectivement le premier choc, ce sont des couleurs très éclatantes, un rose qui est son vêtement, et après la finesse des traits de ce visage, mais également de ce luth, où on voit qu'il accorde avec précision le luth. Et l'objet, c'est aussi à la fois une métaphore de l'engouement pour lance tous les arts à Florence, et la précision de ce tableau, la manière dont ce joueur de luth vous regarde, m'ont absolument fasciné. Donc c'est vraiment une exposition, une installation d'art contemporain, un chaos jouissif, et puis ça incite par moment donné à avoir des regards lents, et ça fait beaucoup bien.
Annaëlle Pigeat.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que cette collection s'inscrit dans une généalogie aussi de collectionneurs, à commencer par le rapprochement dont je parlais tout à l'heure avec la famille Jacquemart-André, mais aussi trois siècles de collectionneurs américains de peinture italienne. On peut penser par exemple à Isabella Stuart Gardner ou bien à la famille Frick, dont le musée bien célèbre est en train d'ailleurs d'être restauré à New York, d'être refait à New York. La singularité de cette collection, c'est justement qu'elle, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'elle n'est pas montrée au public. Donc il y a quelque chose de très exceptionnel dans le fait de la voir aujourd'hui pour la première fois à Paris. Vous parliez du marché de ce marché.
Parenthèse, d'ailleurs, il y a dans le catalogue une magnifique photographie qui montre comment cette collection est présentée chez les collectionneurs. Ouais. Et c'est aussi fascinant.
Présentée pour eux-mêmes,
et leurs amis.
Et justement, je trouve intéressant de se demander ce que cet accrochage, qui est vraiment très particulier, a pour effet quand on regarde les œuvres. Et au fond, ce sont pour l'essentiel des œuvres religieuses. Je trouve que cet accrochage, comme ça, qui permet de tracer des lignes, quasiment des diagonales entre les tableaux, a pour effet de couper dans un premier temps une forme de spiritualité dans la manière de regarder ces tableaux, puis de conduire le regard vraiment à une approche très formelle et à une observation très profonde des tableaux, ce qui a pour effet de faire revenir finalement par un autre biais à une forme de transcendance en fait, qui est véhiculée par ces œuvres. Je parlais tout à l'heure du marché, c'est amusant de dire qu'il y a quelques semaines, deux tableaux ont été vendus en France pour des d'art ancien pour des prix faramineux. L'un d'entre eux à Senlis, c'était un Christ moqué de Cimabue dont notre consoeur Carole Blumenfeld a fait relayer sur les réseaux sociaux qu'il aurait été acheté par un conseiller de la collection Alana, justement. Et puis, plus récemment, et très exactement pour 19,5 millions d'euros, ce qui en fait le huitième tableau le plus cher en art ancien.
Ouais.
Et puis plus récemment, il y a eu aussi à Dijon, une Vierge à l'enfant du maître de Vissibrode qui a été acheté par le maître, le maître, par le métropolitain, pas par le maître. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, pour revenir à l'accrochage, cet accrochage me faisait penser à une installation justement de Francis Alice, artiste vivant, mexicain, belge, enfin installé au Mexique et belge d'origine, qui a une collection de tableaux de Sainte Fabiola. Sainte Fabiola est une sainte martyre. Qui a été représenté en peinture. Ce tableau a disparu. Il y a un certain nombre de versions qui circulent de ce tableau, des objets de dévotion populaire. Francis Alice les a rassemblés de nombreuses années et les a installés sur un grand mur. On a pu les voir dans divers endroits, à Bâle par exemple, ou bien à la Menil Collection aussi à Houston. Et en fait, cette multiplicité des portraits de Fabiola donne la sensation presque de l'éternel tableau manquant, de sentiment de disparition et de jeu sur l'effet de la mémoire. Je trouve intéressant de mettre cette œuvre-là en rapport avec cet accrochage des collectionneurs Alana, toujours à la recherche de l'œuvre manquante.
Oui, enfin, ils ont repris beaucoup quand même. Mais on parlait, et je redonnerai la parole à Salim Boun tout à l'heure, des découvertes de votre côté, parce que c'est vrai qu'il y a ces grands noms, on est très heureux de les voir. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Fabrice Bousteau, aussi dans cette exposition au musée Jacquemart-André?
Dans ces découvertes, il y a un point très important, c'est que effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le regard, il est vraiment heurté, bousculé par la variété de ses formats et de ses œuvres. Mais il faut aussi parler de notion de fragment. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est qu'il y a un débat permanent aussi sur cette exposition, sur le fait que parfois on présente une œuvre qui a l'air unique et qui est en fait une partie d'un triptyque, d'un diptyque. Et il y a cette question aussi, c'est pour ça que c'est intéressant dans cette notion de découverte, cette idée selon laquelle est-ce que une œuvre est vraiment une œuvre de Pontormo, une œuvre est vraiment une œuvre de tel ou tel artiste, puisque ce qu'entraînait la demande extrêmement forte de la période des églises, des bourgeois, des aristocrates, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient pour pouvoir fournir, entre guillemets, la marchandise contemporaine d'art. Et ça entraînait qu'il y ait des doreurs, des menuisiers, et beaucoup d'assistants d'artistes. Et je trouve que c'est quelque chose aussi qui est assez bien expliqué dans l'exposition et notamment dans le catalogue et qui entraîne cette culture du fragment quand on visite l'expo.
Quelques mots encore, Sally Bonne, sur l'exposition
oui.
Alana.
Alors, sans chercher à donner une cohérence à l'ensemble de cette exposition, il y a des choses très très étonnantes, mais il m'a quand même semblé qu'il y avait dans ce qui transparaît à la fois un plaisir du regard et un plaisir de ou une attention particulière à la figure humaine, mais à l'humanité des sentiments et enfin l'intensité même des sentiments. Donc on a des figures qui représentent la tristesse, la souffrance, l'humilité, la tendresse, l'inquiétude, voire l'angoisse. On a un Fra Filippo Lippi, un Saint Jean l'Évangéliste qui a l'air de souffrir terriblement avec un regard totalement tragique. On a un Christ en Christ en homme de douleur de Rosselli qui dégouline de sang, de larmes, les mains sont montrées comme ça en avant et le sang, il y a une espèce de dimension charnelle et sensuelle de ce tableau tellement étonnant, parce qu'on a le visage comme ça en gros plan de ce Christ qui suinte de partout, qui est assez fascinant. Et juste pour finir, ce tableau aussi très singulier parce que d'une étonnante modernité, d'une déposition de croix de Urbertini de 1520 qui figure une sorte de balai, un enchevêtrement de croix, de figures sur des échelles. Il y a trois échelles posées sur la croix et différentes croix. Et là, on a l'impression d'être dans un autre temps, une espèce de figure très géométrique qui d'ailleurs rencontre en fait de l'accrochage lui-même.
Un regard encore, Anaëlle Pijard.
Deux mains de Christ enfant sur les mains de la Vierge. Le premier dans une Vierge à l'enfant d'Uccello qui est au tout début de l'exposition, avec un fond dans une sorte de tissu damassé et une délicatesse de couleurs de rouge, de bordeaux, de bleu, de vert et d'or absolument saisissante. Une autre main de Christ enfant sur les mains de la Vierge à la toute fin de l'exposition. Là, on est passé du 13e au 17e siècle. C'est une Vierge à l'enfant de Gentileschi. Et au fond, toute cette tendresse traverse cette collection qui, il faut le dire aussi, est très vivante, puisque le fait de s'être tournée aujourd'hui jusqu'au XVIIe siècle est aussi quelque chose d'assez remarquable.
Et pour conclure, Fabrice Bousteau.
Un diptyque du maître des deux salis vénitiens ouais. Qui représente des scènes de l'enfance et de la passion du Christ. Une BD contemporaine en quelque sorte, aux couleurs là encore totalement incroyables. Il faut imaginer pour les auditeurs qu'il y a peut-être, je sais pas, allez, 100 points lumineux de couleurs différentes dans ce diptyque, avec une dominante très forte de rouge et de vert que j'interprète vraiment comme le début du calvaire en quelque sorte, et les plis, les drapés, les figures qui sont allongées rappelleraient presque, anticiperaient le gréco. Ça, c'est vraiment, ce diptyque m'a vraiment fasciné.
Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses encore à découvrir dans cette collection Alana, telle qu'on peut la voir au musée Jacquemart-André, jusqu'au 20 janvier, puis prolongée avec le catalogue édité par le Fonds Mercator et Culture Espace. À suivre dans cette dispute, on va parler de Degas, on va parler de chaussures, on va parler de hasard.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Degas à l'Opéra au Musée d'Orsay, une exposition dont les commissaires sont Henri Loirette, Leïla Jarboué, Marine Kiziel, Kimberly Jones, scénographie Flavio Bonuccelli, grâce à Degas. Et donc, on pouvait l'imaginer, mais c'était toute une histoire de l'Opéra de Paris dans la seconde moitié du 19e siècle qui nous est racontée. Le peintre ayant, on le sait, du début à la fin de sa carrière, utilisé tous les espaces, tous les modèles possibles pour explorer cette maison pas comme les autres. Non, ce sera un pas de deux hein, pour cette exposition au musée d'Orsay, Fabrice Bousteau étant un anti-Degas, visiblement, puisqu'il n'a pas été voir cette exposition. Donc Sally Bonne et Anna Elpija, peut-être que je m'immiscerai dans ce pas de deux de nos magnifiques ballerines. Premier sentiment, l'une et l'autre, premier point rapide, Sally Bonne.
La beauté du geste.
Anna Elpija.
Une exposition qui brille.
Bon, je ne vais pas demander à Fabrice de faire le parcours de l'exposition, mais plutôt à Sally Bonne. C'est un parcours synthétique pour avoir déjà quelques images.
Alors, c'est un synthétique pas facile parce qu'il y a quand même 10 sections de ce parcours d'exposition.
Je compte sur votre esprit de synthèse.
On disait de Degas qu'il allait de l'avant et l'exposition prend le parti de l'accompagner dans ce mouvement. On démarre donc... l'idée de montrer que le sujet de l'opéra n'advient pas à cet artiste, mais qu'en fait, il est toujours déjà là, ou qu'il est déjà là dès le début en tout cas, dans cette recherche du mouvement, du corps en mouvement, on voit des bras levés, des jambes en mouvement avec grâce et légèreté. Ainsi débute l'exposition par une première section qui s'intitule « Génétique des mouvements » pour bien montrer cette prégnance du geste dans l'œuvre à travers différentes périodes de l'artiste. Donc on a une peinture d'histoire des années 1860, des jeunes filles de Sparte qui ressemble à une première scène de ballet. On a des études classiques de corps nus penchés, les bras en avant, de face et de profil, des dos de danseuses à mi-corps où le redoublement du trait en fait au fusain produit une sorte de tremblé qui initie le mouvement du corps, une copie du calvaire de Mantegna qui précède l'entrée à l'opéra. Une deuxième section sur le cercle musical qui montre la place importante de la musique pour Degas. C'est pas tant la danse et le corps que en fait l'ensemble de ce qui caractérise l'opéra. On a un très beau portrait de son père, du père de Degas qu'il a initié à la musique, qui écoute le chanteur Lorenzo Pagans, les répétitions de chant, des grands aplats colorés qui saisissent par la peinture le mouvement vif des corps et des visages, et les gestes accentués. Une série de tableaux qui représentent les ballets de Robert le Diable, un opéra de Meyerbeer. Et là, on se situe dans la salle, parmi les spectateurs. On s'approche de la fosse, des musiciens, de l'orchestre. Il y a un très beau tableau de musiciens qui est coupé en deux. Avec en gros plan les musiciens très sombres et puis la deuxième partie supérieure où on voit les danseuses qui sont toutes roses et légères.
Le ballet de Robert le Diable.
Oui. Une série de portraits de musiciens seuls, pianistes, violoncellistes, un bassoniste, Désiré Dio, qui avait demandé à Degas de faire son portrait. C'est par le portrait donc que Degas entre dans l'opéra. Ensuite, on a une troisième section, l'opéra de la salle Le Pelletier au Palais Garnier. Des plans, une grande maquette de l'opéra, des décors, des maquettes de costumes. Ensuite, on va de la salle à la scène et aux coulisses. Et on montre comment justement Degas passe de la salle aux coulisses, qui s'intéresse aux premières classes de danse. Le geste se fait plus rapide, le décor à peine reconnaissable. Degas s'intéresse à la répétition, au travail du relâchement du corps et aussi à, c'est intéressant cette section parce que les coulisses, c'est aussi l'espace d'un commerce des corps sur lequel on reviendra. Ensuite, on passe sur la figure de l'abonné, notamment à travers le Ludovic à Lévy. Il y a des monotypes sur les aventures de Pauline et Virginie qui était une série de nouvelles. Après, l'opéra comme laboratoire technique qui montre le renouvellement technique et artistique fait par Degas à travers l'opéra où il multiplie les médiums, éventail, pastel, peinture à l'essence, sculpture, photographie. Puis la septième section, les tableaux en long, magnifiques tableaux, très très étonnants, quasi cinématographiques.
C'est
absolument magnifique. Ouais. Ensuite, la huitième section des éclairages et points de vue où on voit comment la lumière en fait est travaillée par Degas, où les visages sont quasiment déformés par une lumière qui vient d'en bas qui montre les danseuses vues d'en haut. La neuvième section, ce sont des grands dessins synthétiques au fusain, très étonnant d'ailleurs, où il n'y a plus de décor, mais uniquement le trait et le geste du corps. Ouais. Et puis, on finit par une orgie de couleurs, c'est l'expression que Degas utilisait, des pastels, des fusains, des couleurs vives et contrastées, tout est couleur, les visages, les corps, les vêtements, le décor. Et on a un mélange de pointillisme et de sorte de liquidité de la couleur très singulière.
Bon, vous êtes allé aussi vite que Degas et aussi vite que possible parce que c'est vrai qu'elle est très riche cette exposition. Je suis sûr que vous allez donner envie à Fabrice Bousteau d'y aller voir. Annaëlle Pija, The Guy à l'Opéra.
On va faire tout ce qu'on peut pour, en
qu'est-ce
tout cas.
Qui, donc, qu'est-ce qui retient? Parce qu'on va essayer quand même aussi d'être synthétique nous-mêmes.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on pense qu'on connaît The Guy à l'Opéra. Et en fait, on pourrait croire que c'est un sujet un peu marronnier. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment un sujet qui est totalement structurant dans l'œuvre de Degas et qui est à la fois très général et extrêmement précis. Et on voit là tout le talent d'Henri Loirette, dont on avait plutôt entendu le nom dans les années récentes pour les grands partenariats qu'il a menés avec le Louvre, enfin quand il était le président du Louvre à Abu Dhabi, aux États-Unis. Là, on voit Henri Loirette.
On retrouve le commissaire d'exposition.
Et historien de l'art.
Historien de l'art qui nous manque.
Et c'est pas mal non plus.
Ouais, c'est pas mal. Parce que c'est vrai qu'on pense toujours à la danseuse de Degas, etc.
Voilà.
Comme Sally vient de le dire, on a toutes les techniques, tous les regards, toutes les approches, tous les angles.
Exactement. En fait, on parle du peintre des petites danseuses, mais là, c'est vraiment une exposition qui, à la fois, est d'une vivacité et d'une vigueur tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle montre vraiment la vie de l'opéra d'une façon quasiment documentaire. On voit le passage, notamment, comme Sally le disait, de l'opéra de la rue Le Pelletier au Palais Garnier. On apprend que Degas, qui est inauguré en 1875, on apprend que Degas n'aimait pas le Palais Garnier, et en fait on se rend compte que l'opéra qu'il peint, les arches qu'on reconnaît dans tous ses tableaux, dans les salles de répétition, en fait c'est l'opéra Le Pelletier, qui n'a pas du tout le même effet, il n'a pas le clinquant, le brillant de Garnier. Au passage, Henri Loirette a fait un travail phénoménal dans les archives de l'opéra pour noter les allées venues de Degas, et on voit qu'il a vu un nombre incalculable de fois tel et tel opéra, on mesure à quel point il a regardé, à quel point il a observé, toujours rentrant à l'atelier pour travailler ses œuvres.
Oui, parce que on le rappelle, c'est pas sur le vif.
Voilà, c'est jamais sur le vif.
C'est tout seul les questions du souvenir, la façon dont il se remémore les choses, parce que c'est toujours à l'atelier qu'il peint, à l'opéra, en l'occurrence.
Voilà. Et néanmoins, on voit apparaître dans l'exposition tout un tas de figures de sa famille mélomane. Sally parlait de Désiré Dio, il y a aussi l'actrice Eugénie Fiocre, il y a le compositeur, le librettiste Ludovic Halévy, qui apparaît dans Les Petites Cardinales. Une série de monotypes inspirés d'un récit écrit par Halévy que Degas a abondamment illustré. On a un véritable témoignage de la vie de ces danseuses, notamment le dégoût, j'ai l'impression. On sent le dégoût de Degas.
Pour les Degas. Autour de la danseuse.
Pour ces petites danseuses qu'on voit épiées par leur protecteur, derrière le rideau. Voilà, protecteur,
mot,
évidemment, avec 1000 guillemets. Finalement, Degas ne reproduit jamais littéralement un spectacle, puisque quand il s'approche de la scène, c'est toujours de biais, de façon latérale, et pas littérale justement.
C'est la journée des lapsus.
Par les côtés, par les coulisses, il y a toujours ce premier plan qui est obstrué par éventuellement les manches des contrebasses ou bien les têtes des musiciens. Et puis, cette exposition, donc au-delà de ce côté documentaire, permet de rentrer vraiment dans le laboratoire de Degas. C'est le nom d'une partie, mais c'est vraiment ce que l'on voit dans les tableaux.
Oui, parce que cet aspect documentaire, moi j'ai beaucoup pensé au film de Fred Wiseman, sorti il y a quelques années, sur la danse, sur le ballet de l'Opéra de Paris, où finalement Degas a fait la même chose une centaine d'années avant. Oui, ça doit être à peu près ça. On voit effectivement tous les métiers, mais c'est la question des techniques. Peut-être on peut repartir là-dessus, ça les bonnes, parce qu'effectivement, on voit à quel point c'est un laboratoire de forme, de fait.
Oui, alors il expérimente beaucoup, c'est vraiment une recherche, c'est-à-dire que l'espace de l'opéra est pour lui à la fois un déplacement de son propre corps, puisque et c'est très beau dans l'exposition de voir la manière dont on passe de la salle justement aux coulisses. Quand on est vraiment dans ces premiers tableaux, on est devant parmi les spectateurs et on voit le spectacle avec eux. C'est vrai que le spectacle est jamais entièrement représenté, et pour cela d'ailleurs le tableau anal a évoqué la figure d'Eugénie Fiocre. Le tableau qui représente en fait la danseuse et actrice Eugénie Fiocre est en fait un tableau où c'est une scène de genre quasiment orientaliste. On est en pleine, on est au bord d'une, ça s'appelle la source, l'opéra est la source. On est au bord de l'eau, et puis dans ce paysage-là, on a des chaussons de danse qui apparaissent et qui sont très étonnants, parce qu'en fait rien n'indique dans ce tableau qu'il s'agit d'un ballet, et on a cet élément-là qui vient rappeler en fait le sujet en fait du tableau. Et puis il y a des tableaux, il y a beaucoup de fusains, beaucoup de dessins aussi, et on voit la part absolument essentielle du dessin. Hein, je relisais justement pour accompagner l'exposition le livre de Paul Valéry qu'il a écrit sur Degas dans ce dessin, où il dit Degas fou de dessin. Et effectivement, on voit à travers cette exposition l'importance en fait du geste et du dessin dans l'ensemble du travail. Mais pour autant, Degas expérimente aussi la sculpture. Donc il y a cette fameuse petite danseuse de 14 ans qui est très 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 singulière quand même, hein, qui est très particulière. Mais d'autres petites sculptures. Il y a aussi des photographies, hein, qui sont des négatifs et qui sont aussi très très étonnants parce qu'ils montrent une espèce de formidable puissance de la couleur, et puis des éventails aussi assez beaux. Simplement, il y a une chose que l'exposition montre particulièrement, c'est comment Degas passe d'un naturalisme à l'impressionnisme sans sortir de chez lui. Mmh. Et au fond, c'est une sorte d'impressionnisme intérieur dont le point central serait l'opéra.
Annelle Pigeat, pour conclure cette séquence sur Degas et l'opéra.
Peut-être avec le moment où la vue de Degas baisse à la fin de sa vie, et qui est le moment aussi où il y a cette explosion de couleurs, cette orgie de couleurs, la critique Lucie Couturier parle de pollen de couleurs, et il y a vraiment une sorte d'explosion de, par exemple, de corsages de danseuses dans des turquoises très étonnants, rehaussés de petites touches oranges comme des broderies. On a l'impression vraiment d'un feu d'artifice à la fin tout à fait strident, qui là aussi est l'ultime développement, l'ultime expérimentation que mène Degas à partir de ce répertoire de l'opéra.
Degas à l'opéra, expo d'une grande richesse, là aussi on a donné que des éclats, mais c'est à voir au musée d'Orsay jusqu'au 19 janvier. Et puis si vous nous écoutez depuis Washington, sachez que l'exposition sera présentée à la National Gallery of Art de Washington du 1er mars au 5 juillet, que le catalogue, sous la direction d'Henri Loirette, est coédité pour l'occasion par les musées d'Orsay, de l'Orangerie et avec la RMN. C'est l'heure du coup de cœur de Sally Bone ce soir pour Par hasard. Et on va du côté de Marseille pour cette exposition. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est le recours au hasard qui a été, et sans doute encore, pour l'artiste, une manière de se libérer des contraintes artistiques, catégorielles ou d'un idéal qui mêlerait inspiration et maîtrise. Reconnaître la part aléatoire de l'art, c'est accepter une perte d'intentionnalité de la part de l'artiste qui élargit le champ du faire, et qui modifie le statut de l'artiste. Ainsi, l'accident, la tâche, l'involontaire, le jeu, et surtout une forme de joie et de liberté qui accompagne ces pratiques liées au hasard et qu'on voit apparaître très tôt, mais qui se développe beaucoup au cours de la modernité. C'est aussi le recours au hasard, une manière de faire apparaître la démarche expérimentale de l'artiste, la part de la recherche comme fondamentale de la pratique artistique. Et c'est une des qualités de cette exposition, intitulée « Par hasard », qui se déploie sur deux lieux, Centre de la Vieille Charité, qui se réserve la partie moderne, et la friche de la Belle de Mai, qui se consacre à une partie plus contemporaine. Donc c'est une de ces qualités que de donner à voir cette question du hasard à travers la dimension de la recherche. Donc la partie moderne, la Vieille Charité, est organisée de manière chronologique, et si on démarre sur la merveilleuse vidéo de Marcel Broutars, La pluie, projet pour un texte qui date de 1969, on revient très vite aux expérimentations artistiques et littéraires du 19e siècle, Tâche de Victor Hugo, exemplaire d'un coup de dé, Jamais n'abolira le hasard, de Mallarmé, avec les illustrations qui étaient initialement prévues, celles d'Odilon Redon, les dentrites qui sont assez incroyables de Georges Sand, les dessins qui sont des dessins faits à partir d'aquarelles écrasées, Degas, Moreau, Strindberg. On a aussi plusieurs œuvres de Duchamp, des photos de Man Ray, de Brassailles, Picabia, une très étonnante sculpture automatique de Jean Harpe, des dessins déchirés, deux très beaux Kurzschwitters, de nombreux Max Ernst, surtout une série de cadavres exquis des surréalistes qui est absolument réjouissante, et ensuite une salle consacrée aux nouveaux réalistes et aux peintres abstraits, Soulage, Morlaix, Aurélie, Nemours. Cette partie s'achève à la chapelle de la Vieille Charité avec l'installation monumentale de Filiou, avec les 1600 dés de couleurs avec tous le chiffre 1, et puis une pièce aussi suspendue de Richter, un nuancier de couleur industrielle. À la Friche de la Belle de Mai, la partie contemporaine est tout aussi dense mais moins vaste, rassemble une cinquantaine d'artistes des années 70 à nos jours. La figure du dé, une des sections du parcours, se retrouve dans une très belle installation d'Évariste Richer. Avalanche, 60 000 dés posés au sol, les 1 sont plus blancs, les 6 sont plus noirs, et donc ils composent en fait une avalanche, l'image d'une avalanche avec tous ces dés, c'est absolument étonnant. On a des protocoles, l'ordre, le désordre, l'empreinte, la brûlure, un très beau, une très belle toile de Christian Jacquard, la maîtrise du chaos avec Romane Signer, Anne-Valérie Gasque, la captation de la foudre aussi, des étonnants tableaux éclairs de Jérémy Demester, le potentiel sculptural de l'eau, Ruggirello, une installation de Ruggirello, et surtout la vidéo La Voie lactée de Marie Beauvau, qui suit la progression d'une coulée laiteuse dans les rues de Marseille, c'est très beau. La déambulation de l'espace se fait aussi au gré des rencontres avec les œuvres. Je voudrais juste signaler pour finir, à la Vieille Charité aussi, l'exposition organisée par le CIPM, La Diagonale du Hasard, qui est un contrepoint poétique à l'exposition et qui présente quelques œuvres d'écrivains et de poètes, et des textes aussi de poètes et d'écrivains contemporains qui répondent à la question du rôle créatif du hasard dans leur écriture, et c'est passionnant.
Commissariat de Xavier Rey, Guillaume Tellière, assisté de Léa Salvador, scénographie Étienne Lefrançois et Emmanuel Garcia pour cette double exposition jusqu'au 23 février à Marseille.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
La dernière exposition à notre sommaire, c'est Marche et Démarche, une histoire de la chaussure. C'est au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Denis Brunard est le commissaire, Eric Banquet le scénographe. Le titre étant assez explicite, j'ai pas besoin de davantage de présentation.
Aïe ! Oui ! Oh non, pas celle-là ! Oh non, mademoiselle, pas celle-là, une autre !
Il ne trouve pas chaussure à son pied, il ne trouve pas chaussure à son pied. Nous lui avons tout essayé, tous nos modèles y ont passé. On ne trouve pas chaussure à votre pied, vraiment monsieur, nous sommes navrés. On aimerait tant vous soulager, mais on ne trouve pas chaussure à votre pied.
Mesdemoiselles, vendez-moi s'il vous plaît une paire de savates. Plus de souliers, j'ai les extrémités trop délicates. Les meurtrisés livides, mes pauvres pieds endoloris subissent les attaques perfides des mauvais œils de perdrix. Je les chouchoute, je les dorlote avec des pommades et des bouillottes, mais du rayon sont sans pitié. Je ne trouve pas chaussures à mon pied.
Il ne trouve pas chaussures à son pied. Il ne trouve pas chaussures à son pied. Comme planche de salut, y a pas doute qu'il lui faut celle Snowboot.
Brice Barrier, l'idole d'Alexandre Fougeron, qu'on vient d'entendre dans Chaussures à mon pied avec les Parisiennes qui faisaient les chœurs. On va faire un premier tour de table, en courant bien sûr, sur cette exposition du Musée des Arts Décoratifs. Fabrice Bousteau.
Une expo, c'est facile, mais une expo qui permet de prendre son pied. J'expliquerai d'où vient l'expression.
Ah très bien, Annaëlle Pigeon.
Le monde vu par la chaussure.
Oui, ça est bonne.
Tout sur la chaussure ou la meilleure façon de marcher.
D'accord. Alors, Fabrice Bousteau, c'est vous qu'on va suivre. On va suivre vos pas.
Alors, c'est une exposition très dense, qui est très scénographiée. Il faut imaginer qu'on arrive dans un univers qui est assez proche d'un cabinet de curiosité et qui réunit 500 œuvres. Et dans ces 500 œuvres, ce sont des chaussures, mais aussi des peintures, des photographies, des extraits de films, des publicités. On comprend tout de suite, ce n'est pas une histoire de la chaussure de l'Antiquité à nos jours, c'est une histoire de la marche et donc de la démarche, et donc du style. Le commissaire d'exposition est parti du principe qu'il avait été très frappé par un petit soulier de Marie-Antoinette datant de 1792, tout petit, minuscule, et il s'est dit, mais pourquoi ? Comment faisait-elle pour marcher dans ce minuscule soulier ? Eh bien, elle ne marchait pas, justement. C'était le principe, c'est que Marie-Antoinette ne marchait pas et qu'elle s'intéressait fortement à son apparence et qu'il y avait, à l'époque, un culte pour le petit pied. Alors, l'expo, elle s'ouvre sur une présentation de la façon de marcher de l'enfance à l'âge adulte, du 15e au 19e siècle, en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Qui voit-on ? On y voit des vitrines avec des chaussures. On y voit, de manière un peu, j'irais dire, hallucinante, la compréhension de l'histoire de la marche. C'est à la fois une exposition qui a une dimension très sociétale. On comprend que ce petit morceau de tissu nous permet de marcher et permet, selon l'environnement, est adapté à l'environnement. C'est-à-dire que si, pendant la période d'occupation, on fait des chaussures en bois pour des raisons économiques, et donc du coup, ça transforme complètement la marche. C'est une exposition qui s'achève, avant, je vais y revenir après, mais s'achève après, sur une installation qui est absolument hallucinante, où qui consiste en un salon d'essayage, où en fait on essaye 8 modèles de chaussures dingues, importables, et il y a même des barres où on peut s'appuyer pour éviter de se casser la gueule et de se casser le pied. Toutes les dimensions de la chaussure sont abordées. Il y a un faux sur le sport, l'histoire de la chaussure de tennis, de course, de basket, des sneakers. Il y a un focus sur les chaussures fétichistes. Il y a un focus sur la chaussure militaire, la chaussure de clown, la chaussure les chaussures magiques comme les bottes de 7 lieues, les chaussures des créateurs qui sont des fantasmes, littéralement des chaussures impossibles à utiliser. Donc c'est une exposition très riche où on s'amuse beaucoup et on se cultive beaucoup et on apprend à prendre son pied. J'y reviendrai.
Oui, vous y reviendrez. On attend évidemment un effet d'annonce comme ça sur cette révélation. Annaëlle Pigeon.
C'est une exposition effectivement à la fois dans laquelle on apprend beaucoup de choses et dans laquelle on s'amuse beaucoup, dans laquelle on est frappé par à la fois la constance et la diversité de ces formes quand même, parce qu'il y a une dimension formelle très singulière. C'est peut-être pas très étonnant, mais les chaussures, il y a des chaussures, il y a des objets extraordinaires qui sont quand même des chaussures du 14e siècle, qui sont relativement peu différentes des chaussures que nous avons aujourd'hui.
Pieds ont assez peu changé
nos
aussi.
Pieds, encore que, on le découvre aussi. Et il y a un certain nombre d'objets, notamment des chaussures du 18e, une paire de chaussures de femmes roses avec un petit talon qui, franchement, ne déparerait pas dans un magasin de seconde main aujourd'hui. C'est aussi une exposition qui est passionnante par sa portée sociologique. Dans ce culte des petits pieds, de manière tout à fait frappante notamment, dans le rapprochement qui est fait avec le culte des petits pieds en Asie, la manière dont on voit les pieds de ces petites filles qui sont cassées, littéralement repliées avec des bandages dans des bains d'eau chaude pendant des semaines entières pour transformer leurs pieds en ce qui s'appelle des boutons de lotus. On voit des chaussures qui mesurent à peine 5 cm, de les regarder, on se sent mal.
Très mal.
Et aujourd'hui, évidemment, on est à l'autre bout de l'exposition, dans l'exact inverse de la recherche du confort et de la liberté. Donc, il y a aussi une vision du monde qui passe par cette lecture des chaussures, ces objets que l'on croit connaître et que finalement, on ne connaît pas tant que ça.
Sally Bonne, est-ce que vous avez marché ?
Oui. Cette exposition, c'est une grande fresque culturelle par les pieds et au ras du sol, assez passionnante, parce qu'effectivement, Annaëlle l'a signalé, on apprend plein de choses. C'est aussi une histoire du déplacement, de la mobilité comme de l'immobilité, parce qu'effectivement, un certain nombre de chaussures étaient faites non pas pour marcher, mais pour la représentation. C'est aussi une histoire sociale, voire politique. C'est aussi une histoire de notre rapport au sol. Et donc, c'est moins une exposition sur les chaussures que justement sur toutes les manières de marcher. La marche, justement, comme un langage corporel, social et culturel, qui se situe aussi dans une dialectique entre l'intérieur et l'extérieur, puisque des chaussures ne sont faites que pour l'intérieur. Je pense pas seulement aux pantoufles, mais notamment, Fabrice l'avait évoqué, ces chaussures qui sont pour les dames et qui ne servent pas du tout à marcher, mais simplement à se poser dans des salons. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Au 18e, les femmes ne marchaient pas, en fait. Les femmes de la bourgeoisie et de l'aristocratie plutôt, elles étaient transportées par chez apporteurs, donc jamais elles posaient le pied par terre dans la rue. Et Pour situer ça justement dans l'opposé, on voit aussi tout cet usage des sabots avec le bruit que ça fait, avec la forme des sabots aussi. Et donc il y a ce rapport-là en fait entre deux typologies qui sont des typologies sociales et culturelles. Donc on est dans une dialectique entre intérieur et extérieur, entre contrainte et confort, mais aussi entre usage et représentation. Mmh. Et l'ensemble de l'exposition apparaît comme une histoire de la quête du confort, en fait, progressive. C'est vrai que cette petite salle, un petit peu enfermée sur les petits pieds chinois, est absolument étonnante, singulière et un peu effrayante, hein, parce qu'on voit quand même effectivement cette série de chaussures. Ce qui est bien indiqué dans l'exposition, c'est qu'on nous marque en fait, les tailles de pieds, donc du 24 ou 23 ou 18 même jusqu'au 42. Et on voit ces petites chaussures qui sont bien en deçà des tailles dites normales, voire même enfantines, qui sont, il y a un petit moulage aussi des pieds bandés, qui est assez terrifiant.
Fabrice Bousteau.
Oui, il y a quand même une injustice dans cette exposition. C'est l'injustice entre, les hommes et les femmes. Mmh. En fait, quand on regarde cette exposition, on se rend compte que la chaussure décorative pour hommes, elle est beaucoup moins évoluée que celle...
C'est valable pour toute la mode.
C'est valable sans doute pour toute la mode. Mais c'est particulièrement frappant.
Il y a peut-être plus de chapeaux pour les hommes, mais sinon...
Alors, ce qui n'empêche qu'il y a quand même des chaussures pour hommes, moi, qui m'ont particulièrement intéressé, notamment une paire de chaussures datant du XVIIe siècle, qui vient d'Iran. Et en fait, cette paire de chaussures, elle ressemble à une sandale très belle, verte, brodée, avec de très jolies broderies, et le bout de la chaussure est relevé un peu en pointe. Alors je me suis dit, ça fait un peu une chaussure de danse folklorique. Mais pas du tout. En fait, on apprend que le bout qui revient
qui remonte
et en fait permettait d'évacuer le sable des pieds, et donc de permettre une meilleure marche avec le sable qui se collait en haut. On apprend une tonne de choses, notamment prendre son pied. L'expression, elle vient d'où ? Elle vient du fait que pendant très longtemps, le pied a été l'unité de mesure le plus ancienne de l'humanité. Et que les corsaires au 19e siècle, pour prendre leur butin, utilisaient leurs pieds pour la quantité d'or qu'ils allaient prendre. Et le parallèle, c'était que prendre son pied, c'était prendre l'argent pour pouvoir avoir du plaisir. D'où cette expression à connotation sexuelle. Mais cette histoire de la chaussure, elle parle également... Il y a une très belle référence au livre de Georges Bataille sur le gros orteil. Mmh. C'est vrai que ce qui distingue l'homme des chimpanzés, c'est un seul élément majeur, c'est le gros orteil. Nous sommes les seuls à avoir des gros orteils.
Bien, voilà, ça pourrait ne pas durer avec l'évolution. Allez, un dernier mot, une dernière paire.
Il y a beaucoup de fantaisie dans cette exposition. Les chaussures, par exemple, en pattes d'ours, des sorciers d'Amérique du Nord qui ont pour objet de nous rendre invisibles.
Ça peut marcher, ça. Je crois que ça marche. Sally Bone.
Ah oui, il y a aussi une magnifique figurine en terre cuite. Aphrodite orientale assise nue du 1er siècle, la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et cette petite Aphrodite orientale nue porte des chaussures à des chaussures hautes à plateforme qui sont totalement fascinantes.
Ah, vous les voulez ? Pas sûr.
Non. mais la figurine est magnifique.
Pour les porter en intérieur, hein, pour paraître. Et moi, Fabrice Bousteau.
J'étais fasciné par les photos de David Lynch, réalisées à partir de chaussures de Louboutin, absolument, totalement importables, mais portées pourtant par des danseuses du Crazy Horse.
Ce sont quasiment que des pointe, c'est difficile à décrire, hein. Il faut aller voir les images.
Oui, on pense que c'est impossible de marcher, effectivement. Ouais. Il faut imaginer plutôt quelque chose qui tiendrait du stylo déformé.
Ouais. Et encore. C'est loin des images. Bon, marche et démarche, une histoire de la chaussure, c'est au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu'au 23 février.
MAD.
Oui, le MAD pour les intimes, Musée des Arts Décoratifs. C'est le MAD qui édite lui-même. Je cherchais le nom de l'éditeur du catalogue, très beau catalogue, mais je crois que c'est le MAD qui édite lui-même le catalogue de cette exposition. Je l'ai dit, c'était jusqu'au 23 février. Oui, ben je le redis. avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, comme s'il n'y avait pas assez de cadeaux, avec David Danan. Qu'est-ce qu'on fait gagner, nous, ce soir? Un livre qui s'appelle « Les sorcières ». Une histoire de femme de la remarquable Céline Duchesnay, camarade de France Culture. C'est d'ailleurs un livre en coédition, France Culture et Michel Lafon. David Dana va vous poser la question pour remporter un exemplaire de ce livre. David.
De quelle émission de France Culture le livre Les sorcières, une histoire de femme est-il issu?
Heureusement, je ne l'ai pas dit avant de poser la question. Eh bien, si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez par courriel. Vous indiquez vos coordonnées postales, bien sûr, pour qu'on vous envoie le dit livre. Le courriel, c'est auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Jérémy Kaufmann. Réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur notre émission sont à retrouver sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut bien sûr réécouter ou podcaster nos émissions. On se retrouve demain à 19h pour une dispute littérature en compagnie de Sonia Deschamps, Lucille Como et Jean-Christophe Briançon. Nous parlerons du livre de Nathalie Quintane, Les enfants vont bien chez POL, de celui de Sophia Aouin, La rhapsodie des oubliés à la Martinière, Protocole gouvernante, c'est un livre de Guillaume Lavenant chez Rivage, et puis il y aura un coup de cœur de Sonia Deschamps.